Le même mois, en Tunisie, un vendeur de fruits désespéré s'est immolé par le feu devant le siège du gouvernorat de Sidi Bouzid. C'était un acte de protestation, produit de la détresse et de la fureur d'un citoyen face à un gouvernement qu'il savait corrompu et indifférent à ses besoins. L'homme, Mohamed Bouazizi, 26 ans, n'avait pas la réputation d'être un militant et ne s'intéressait même pas spécialement à la politique. Il appartenait à une génération de Tunisiens n'ayant connu que la stagnation économique et le joug du dictateur Zine El Abidine Ben Ali. Harcelé à répétition par des inspecteurs municipaux, après s'être vu refuser une audience devant le juge, il avait fini par en avoir marre. D'après un témoin, au moment de s'immoler, Bouazizi a crié, à tout le monde en général et à personne en particulier, « Comment est-ce que vous voulez que je gagne ma vie ?» La souffrance de ce marchand de fruits a déclenché aux quatre coins du pays des manifestations contre le gouvernement tunisien, et le 14 janvier 2011, Ben Ali a fui avec sa famille en Arabie Saoudite. En parallèle, des mouvements similaires, principalement animés par des jeunes, naissaient en Algérie, au Yémen, en Jordanie et à Oman, premier bourgeon de ce qu'allait devenir le printemps arabe. Tandis que je préparais le discours sur l'état de l'Union que j'allais prononcer le 25 janvier 2011, mon équipe se demandait dans quelle mesure je devais commenter les événements qui évoluaient à toute allure au Moyen-Orient et au Maghreb. Après la formidable mobilisation des Tunisiens qui étaient parvenus à renverser un dictateur, la population à travers le pays semblait en ébullition, portée par l'espoir d'un réel changement. La situation était toutefois complexe et l'issue incertaine. Pour finir, nous avons décidé d'ajouter une phrase simple et directe à mon discours. Ce soir, je veux le dire clairement, les États-Unis d'Amérique sont aux côtés du peuple tunisien et soutiennent l'aspiration de tous les peuples à la démocratie. De notre point de vue, les développements les plus retentissants avaient lieu en Égypte, où une coalition de mouvements de jeunesse, militants, partis de gauche, écrivains et artistes de premier plan, avait lancé un appel national à l'action contre le régime de Moubarak. Le jour de mon discours sur l'état de l'Union, près de 50 000 Égyptiens ont déferlé sur la place Tahrir, dans le centre du Caire, pour exiger la fin de l'état d'urgence, des violences policières et des restrictions à la liberté politique. Des milliers d'autres personnes participaient à des rassemblements similaires dans tout le pays. La police a tenté de les disperser à coups de canons à eau, de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène, et le gouvernement de Moubarak, non content d'interdire les manifestations, a également bloqué Facebook, YouTube et Twitter pour essayer d'empêcher les participants de s'organiser ou de communiquer avec le monde extérieur. Pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, la place Tahrir allait ressembler à un campement permanent, occupé par des légions d'Égyptiens qui défiaient leur président avec comme mot d'ordre « pain, liberté et dignité ». C'était précisément le scénario que la directive émise par le Conseil de sécurité nationale avait cherché à éviter. Tout à coup, le gouvernement américain se trouvait écartelé entre un allié autoritaire mais fiable et une population tendue vers le changement, cette dernière exprimant les aspirations démocratiques que nous prétendions soutenir. Chose encore plus inquiétante, Moubarak ne semblait pas conscient du soulèvement en cours. Au téléphone, une semaine plus tôt, il s'était montré obligeant et réactif quand nous avions cherché à ramener Israéliens et Palestiniens à la table des négociations et évoqué l'appel à l'unité lancé par son gouvernement à la suite d'un attentat perpétré par des extrémistes musulmans contre une église copte d'Alexandrie. Mais lorsque j'avais soulevé la possibilité que les manifestations qui avaient débuté en Tunisie se propagent à son pays, Moubarak s'était contenté de me répondre que l'Égypte n'est pas la Tunisie. Il m'avait assuré que ce mouvement de contestation de son gouvernement ne durerait pas. Tout en l'écoutant, je l'imaginais assis dans l'une des vastes pièces somptueuses du palais présidentiel où s'était déroulée notre première rencontre. Rideau tiré, Moubarak imposant dans son fauteuil à haut dossier, tandis que des conseillers prenaient des notes ou observaient, prêts à répondre à toutes ses demandes. Isolé comme il l'était, il ne verrait que ce qu'il voudrait voir et n'entendrait que ce qu'il voulait entendre. Et cela n'augurait rien de bon. Pendant ce temps, les reportages sur la place Tahrir ravivaient chez moi d'autres souvenirs. La foule de ces premières journées semblait bien plus jeune et laïque que la moyenne de la population, assez proche en cela des étudiants et militants qui avaient assisté à mon discours du Caire. Dans leurs interviews, ces manifestants apparaissaient réfléchis et informés, et insistaient sur la non-violence de leur action, ainsi que sur leur aspiration au pluralisme démocratique, à l'état de droit et à une économie innovante capable de créer des emplois et d'améliorer leur niveau de vie. Armés de leurs idéaux et de leur courage face à un pouvoir répressif, ils n'avaient pas l'air si différents des jeunes qui avaient jadis contribué à abattre le mur de Berlin où s'étaient dressés devant les chars d'assaut de la place Tiananmen. Et ils n'étaient pas non plus si différents des jeunes gens qui avaient voté pour moi. Si j'étais égyptien et si j'avais 20 ans, ai-je dit à Ben, je serais sûrement avec eux. Seulement, je n'étais pas égyptien et je n'avais plus 20 ans. J'étais président des États-Unis. Et malgré toute l'énergie de ces jeunes, il me fallait garder à l'esprit que, tout comme les professeurs d'université, les militants des droits fondamentaux, les membres des partis laïcs d'opposition et les syndicalistes qui se trouvaient avec eux en première ligne, ils ne représentaient qu'une fraction de la population égyptienne. Si Moubarak se retirait en créant un vide au sommet de l'État, ce n'était pas eux qui le combleraient. L'une des tragédies du règne dictatorial de Moubarak était qu'il avait entravé le développement des institutions et traditions qui auraient aidé l'Égypte à effectuer sa transition vers la démocratie. Des partis politiques forts, une justice et une presse indépendantes, des observateurs électoraux impartiaux, des associations citoyennes de toutes tendances, une fonction publique efficace et le respect des droits des minorités. Après l'armée, qui était profondément enracinée dans la société égyptienne et avait des intérêts dans de nombreux secteurs économiques, la faction la plus puissante et rassembleuse du pays était celle des Frères musulmans, une organisation sunnite dont l'objectif premier était l'application stricte de la charia en Égypte et dans le reste du monde arabe. Grâce à leurs actions militantes et caritatives, et bien qu'ils aient été officiellement interdits par Moubarak, les Frères bénéficiaient d'une base très étendue. En outre, ils préféraient la participation politique à la violence pour faire avancer leur cause, et les candidats qu'ils soutenaient auraient de grandes chances de partir favoris lors d'une élection libre et régulière. Mais de nombreux gouvernements de la région voyaient en eux une menace, une puissance subversive, et leur philosophie fondamentaliste faisait d'eux des gardiens douteux du pluralisme démocratique et une possible épine dans les relations entre Washington et le Caire. Sur la place Tahrir, les rassemblements continuaient à prendre de l'ampleur, de même que les affrontements entre manifestants et policiers. Visiblement arraché à sa torpeur, Moubarak est apparu à la télévision égyptienne le 28 janvier pour annoncer le limogeage de son gouvernement, mais sans montrer aucune intention de répondre aux demandes de réforme. Estimant que le problème n'allait pas se résoudre de lui-même, j'ai consulté mon équipe de sécurité nationale pour réfléchir à la manière la plus efficace de réagir. Le groupe était divisé et sa dissension était pratiquement générationnelle. Les membres les plus âgés et expérimentés, Joe, Hillary, Gates et Panetta, qui connaissaient Moubarak depuis des années, conseillaient la prudence. Ils rappelaient le rôle que son gouvernement avait joué dans la paix avec Israël, la lutte contre le terrorisme et la collaboration avec les États-Unis sur quantité de dossiers dans la région. Et s'ils admettaient qu'il fallait faire pression sur lui pour qu'il accepte une réforme profonde, ils prévenaient que nous n'avions aucun moyen de savoir par qui ou par quoi il pourrait être remplacé. En face d'eux, Samantha, Ben, Dennis, Susan Rice et Tony Blinken, le conseiller de Joe à la sécurité nationale, affirmaient que Moubarak avait irrémédiablement perdu sa légitimité aux yeux du peuple égyptien. Plutôt que de donner l'impression que nous cautionnions l'usage croissant de la force contre les manifestants en continuant à nous accrocher à un dictateur corrompu qui n'allait pas tarder à tomber, ils soutenaient que la prudence stratégique, autant que la justesse morale, nous imposait de nous ranger du côté des forces du changement. Je partageais à la fois les espoirs des jeunes et les craintes des aînés. J'ai décidé que le meilleur moyen de préparer une sortie par le haut consistait à persuader Moubarak d'entreprendre une série de réformes importantes, parmi lesquelles la levée de l'état d'urgence, le rétablissement de la liberté politique et de la liberté de la presse, et la programmation d'élections nationales libres et régulières. Cette transition dans l'ordre, comme la décrivait Hillary, donnerait aux candidats et partis d'opposition le temps de mobiliser leur soutien et de formuler un programme sérieux. Elle permettrait aussi à Moubarak de prendre sa retraite, tempérant auprès des autres dirigeants l'impression que nous étions prêts à lâcher nos alliés dans la région au premier trouble politique. Naturellement, tenter de convaincre un despote âgé et acculé de tirer sa révérence n'irait pas sans peine, même si c'était dans son intérêt. À la fin de notre réunion dans la salle de crise, j'ai appelé Moubarak et lui ai suggéré de proposer un ensemble de réformes ambitieuses. Il s'est immédiatement mis sur la défensive, a répliqué que les manifestants étaient manipulés par les Frères musulmans et m'a de nouveau certifié que tout allait revenir à la normale. Il a tout de même accepté que j'envoie un émissaire au Caire, Frank Wisner, qui avait été ambassadeur en Égypte à la fin des années 1980, pour échanger plus en profondeur avec lui. L'idée d'utiliser Wisner pour parler en direct avec le président égyptien venait de Hillary, et je la trouvais bonne. Wisner, dont le père avait joué un rôle central dans les premières années de la CIA, était un pur produit de l'establishment diplomatique américain qui connaissait Moubarak et avait sa confiance. Toutefois, ses relations avec le président et son approche datée risquaient de le rendre excessivement prudent dans son évaluation des possibilités de changement. Avant son départ, je l'ai appelé pour lui donner une consigne. « Soyez audacieux. » Je voulais qu'il pousse Moubarak à annoncer qu'il se retirerait après les prochaines élections, un geste que j'espérais assez spectaculaire et précis pour convaincre les manifestants de l'imminence d'un réel changement. Tandis que nous attendions l'issue de la mission de Wisner, les médias ont commencé à se pencher sur la réaction de mon gouvernement face à la crise, en se demandant concrètement de quel côté nous étions. Jusque-là, nous nous étions bornés à publier des déclarations standards qui nous faisaient gagner du temps, mais les correspondants à Washington, dont une grande partie prenait visiblement fait et cause pour les manifestants, se sont mis à harceler Gibbs en exigeant de savoir pourquoi nous ne nous étions pas prononcés clairement en faveur des forces pro-démocrates. Pendant ce temps, les dirigeants de la région nous demandaient pourquoi nous ne soutenions pas Moubarak plus énergiquement. Bibi Netanyahou déclarait que le plus important était de préserver l'ordre et la stabilité en Égypte, sous peine de voir l'Iran s'y installer en deux secondes. De son côté, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite était encore plus inquiet. La diffusion de ce mouvement dans la région représentait une menace vitale pour une dynastie qui étouffait depuis longtemps toutes les oppositions. Lui aussi pensait que les manifestants égyptiens étaient manipulés et il m'a cité les quatre factions qui étaient selon lui à la manœuvre. Les frères musulmans, le Hezbollah, Al-Qaïda et le Hamas. Aucune de ces analyses ne tenait la route. Les sunnites, qui composaient la grande majorité de la population égyptienne et l'intégralité des frères musulmans, étaient peu sensibles à l'influence chiite de l'Iran et du Hezbollah, et absolument rien n'indiquait qu'Al-Qaïda ou le Hamas soient de quelque façon derrière les soulèvements. Pourtant, même les dirigeants plus jeunes et réformistes comme le roi Abdallah de Jordanie redoutaient que leur pays soit emporté par les manifestations et, même s'ils employaient des termes plus contournés, ils attendaient des États-Unis que nous choisissions, selon les mots de Bibi, la stabilité et non le chaos. Le 31 janvier, des chars de l'armée égyptienne étaient stationnés dans tout le Caire. Le gouvernement avait coupé Internet dans la ville et les manifestants planifiaient une grève nationale pour le lendemain. Le compte-rendu de Wisner est arrivé. Moubarak allait s'engager publiquement à ne pas briguer un nouveau mandat, mais refusait de lever l'état d'urgence et d'accompagner une passation pacifique du pouvoir. Cette nouvelle a encore accentué les dissensions au sein de mes collaborateurs. Pour les plus expérimentés, cette concession justifiait que nous continuions à soutenir Moubarak. Tandis que les plus jeunes y voyaient, comme dans sa décision subite de nommer Oumar Souleymane, son directeur du renseignement, au poste de vice-président, une simple dérobade incapable d'apaiser les manifestants. Tom Donilon et Dennis m'ont fait savoir que les débats avaient tourné au vinaigre et que la presse relevait toutes les divergences entre les déclarations prudentes et lénifiantes de Joe et de Hillary, et celle de Gibbs et des autres qui prenaient moins de pincettes pour critiquer Moubarak. Afin de m'assurer que tous les violons soient accordés, je suis passé sans prévenir à la réunion des directeurs du Conseil de sécurité nationale qui se tenait en salle de crise le lendemain 1er février. Nous venions tout juste de commencer à discuter quand un conseiller nous a informé que Moubarak était en train de s'adresser au peuple égyptien sur la télévision nationale. Nous avons allumé le poste qui se trouvait dans la pièce pour le regarder en direct. Vêtu d'un costume sombre et lisant un texte préparé à l'avance, Moubarak a d'abord paru honorer son engagement en déclarant qu'il n'avait jamais eu l'intention de se nommer président pour un nouveau mandat et en annonçant qu'il allait demander au Parlement égyptien, entièrement sous son contrôle, de réfléchir à des élections anticipées. Mais les termes de la transmission du pouvoir étaient si flous que les spectateurs égyptiens allaient vraisemblablement en conclure que Moubarak reviendrait sur ses promesses à la seconde où les protestations s'éteindraient. De fait, le président a consacré le plus clair de son intervention à dénoncer les provocateurs et les forces politiques sans visage qui avaient infiltré les manifestations pour miner la sécurité et la stabilité du pays. Il a martelé qu'il continuerait à s'acquitter de ses responsabilités, lui qui n'avait jamais, absolument jamais cherché le pouvoir, et à protéger l'Égypte contre les agents du désordre et de la violence. À la fin de son discours, quelqu'un a éteint le poste et je me suis reculé contre le dossier de ma chaise en étirant les bras derrière ma tête. Ça, ai-je dit, ça ne va pas être suffisant. Je voulais tenter une dernière fois de convaincre Moubarak d'amorcer une vraie transition. J'ai regagné le bureau ovale et je l'ai appelé en mettant le téléphone sur haut-parleur pour que mes conseillers entendent notre conversation. J'ai commencé par le féliciter pour sa décision de ne pas se représenter. Je ne pouvais qu'imaginer combien cela allait être difficile pour un homme comme lui, qui était arrivé au pouvoir quand j'étais encore étudiant et qui avait vu défiler 4 de mes prédécesseurs, d'entendre ce que je m'apprêtais à lui dire. Maintenant que vous avez pris la décision historique de céder votre place, ai-je dit, je veux parler avec vous de la transition. Je vous le dis avec tout mon respect, j'aimerais vous exposer honnêtement le fruit de mes réflexions sur ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Je suis alors entré dans le vif du sujet. S'il ne se retirait pas et faisait traîner le processus de passation, les manifestations allaient continuer et probablement devenir incontrôlables. S'il souhaitait garantir que le gouvernement élu soit responsable et indépendant des frères musulmans, alors le moment était venu de démissionner et de mettre à profit sa stature pour aider un nouveau gouvernement à prendre le relais. D'ordinaire, Moubarak et moi communiquions en anglais, mais ce jour-là, il a choisi de me répondre en arabe. L'agitation dans sa voix se passait de traduction. « Vous ne comprenez pas la culture du peuple égyptien », a-t-il répliqué en haussant peu à peu le ton. « Président Obama, si je fais la transition de cette façon, ce sera très dangereux pour l'Égypte. » J'ai admis que je ne connaissais pas la culture égyptienne aussi bien que lui et qu'il était en politique depuis bien plus longtemps que moi. Mais il y a des moments dans l'histoire où les choses cessent d'être ce qu'elles étaient jusque-là, ai-je poursuivi. « Vous avez servi votre pays pendant plus de 30 ans. Je veux m'assurer que vous ne laissiez pas passer ce moment historique et que vous léguiez un bel héritage. » Nous avons continué sur ce ton pendant quelques minutes, Moubarak insistant sur le fait qu'il devait rester en place et que les manifestations ne dureraient pas. « Je connais mon peuple », m'a-t-il dit vers la fin de notre conversation. « Il est à fleur de peau. Je vous reparlerai bientôt, monsieur le président, et je vous dirai que j'avais raison. » J'ai raccroché. Il n'y avait pas un bruit dans la pièce. Tous les yeux étaient braqués sur moi. J'avais conseillé Moubarak du mieux que je le pouvais. Je lui avais montré la voie d'une sortie dans la dignité. J'étais conscient que le dirigeant qui lui succéderait serait peut-être un partenaire moins fiable pour les États-Unis et éventuellement pire encore pour le peuple égyptien. Et en vérité, si Moubarak avait présenté un plan de transition digne de ce nom, j'aurais pu m'en contenter, même s'il avait laissé en place une grande partie du réseau du régime. J'étais suffisamment réaliste pour comprendre que, sans la ténacité des jeunes gens de la place Tahrir, j'aurais continué à travailler avec Moubarak jusqu'à la fin de ma présidence, malgré tout ce qu'il représentait, de même que j'aurais continué à travailler avec les autres dictatures corrompues et pourrissantes, selon les mots de Ben, qui régnaient sur le Moyen-Orient et le Maghreb. Mais il y avait les jeunes de la place Tahrir. Grâce à leur culot et à leur obstination, ils avaient été rejoints par d'autres, des maires, des ouvriers, des cordonniers et des chauffeurs de taxi. Ces centaines de milliers de personnes avaient, l'espace d'un instant du moins, cessé d'avoir peur et n'arrêteraient pas de protester, à moins que Moubarak ne ravive leur peur de la seule manière qu'ils connaissaient, avec des matraques et des armes à feu, la prison et la torture. Plus tôt dans mon mandat, je n'avais pas réussi à infléchir la réaction brutale du régime iranien face aux manifestants du mouvement vert. Je ne pourrais peut-être jamais empêcher la Chine ou la Russie de broyer leur opposition. Mais le gouvernement de Moubarak avait reçu des milliards de dollars sortis de la poche des contribuables américains. Nous lui avions fourni des armes et des informations, nous l'avions aidé à former ses officiers. Je ne pouvais pas autoriser le destinataire de cette aide, un homme que nous considérions comme un allié, à étouffer par la violence des manifestations pacifiques, alors que le monde entier nous regardait. C'était une ligne que je ne voulais pas franchir. J'estimais que cela ferait trop de mal à l'image de l'Amérique, que cela me ferait trop de mal. On va préparer une déclaration, ai-je dit à mon équipe. On va demander à Moubarak de se retirer tout de suite.